Il y a beaucoup de mystiques à l'envers pour qui Dieu, c'est le diable. Des théologiens tête en bas, des intégristes laïcs, qui rient de tout le monde sauf d'eux-mêmes et dont la devise est « circuler, il n'y a rien à croire ». C'est à leur attention, comme à celle du lecteur de bonne volonté, que Lucien Gerfagnon a publié chez Desclées de Brouwer un beau livre appelé « Les dieux ne sont jamais loin », dans lequel il propose ni plus ni moins qu'un armistice entre la science et le mythe, une sorte de trêve entre toutes les versions du monde. Sous la tutelle de Chateaubriand qui disait « Tout le monde regarde ce que je regarde, mais personne ne voit ce que je vois », Gerfagnon, agnostique mystique et l'œil sur la nuit des temps, ressuscite les vérités rudimentaires enfouies sous la science, désigne l'espérance sans en être l'évangile, et raconte en riant les épopées, la genèse, les théogonies, les métamorphoses et les peurs ancestrales. Bref, quand certains savants se regroupent en chapelle pour dissiper l'obscurité, Gerfagnon s'occupe dans son coin de montrer les dieux et les mirages, comme ça, juste pour voir.
Oui, j'ai rencontré, comme historien de la philo, j'ai rencontré pas mal de dieux dans ma vie. Oh là là, ça c'est... J'ai rencontré presque autant de dieux que d'hommes. Et tout ça m'a toujours trotté par l'esprit, ce que ces dieux suscitaient dans les esprits ou les âmes, les uns de toutes sortes de gens, les uns des autres, dans toutes sortes de siècles. Ça m'a hanté. Et comme moi-même, j'ai été retenu sur les pentes de l'athéisme par Plotin, qui m'a empêché d'être athée, au fond. J'ai été passionné par cette rencontre avec les dieux, tous les dieux, sous toutes les formes, pour savoir ce que cette rencontre produisait dans une infinité de cœurs au travers des âges. Et c'est ça, moi, qui me passionnait, exactement comme les systèmes philosophiques me passionnaient. Pourquoi quelqu'un, je vous l'ai dit l'autre fois, pourquoi quelqu'un dit à penser ceci plutôt qu'autre chose? Comment croyait-on à ce Dieu-là plutôt qu'à un autre? Et pourquoi? Et qu'est-ce qu'il apportait? Et qu'est-ce que ça leur faisait d'y croire? Etc. Donc, c'est toujours la même démarche. Essayer de s'introduire discrètement dans la pensée de ceux qui ne sont plus pour voir à quoi ils croyaient et d'où ils tiraient cette espérance qui avait éclairé leur vie.
Dans ce livre, ce qui est très frappant, c'est qu'à l'humour qui vous caractérise dans vos autres livres,
c'est vrai,
on a le sentiment que se substitue ici une certaine forme d'ironie. Vous êtes mordant parfois, et en particulier à l'endroit de ceux qui emploient l'expression, vous savez, commune, c'est un mythe, pour qualifier le mythe. Vous moquez l'expression et notre époque méprisante. Vous dites, le mot de mythe dans le vocabulaire courant au XXIe siècle fleure à la fois, tout à la fois la méfiance et la satisfaction d'avoir su déjouer un leurre.
Oui, d'avoir triomphé de la foutaise. Parce qu'on estime que le mythe, c'est une aimable... je crois que c'est Rabelais qui aurait dit une coyonnerie. À Bordeaux, dans ma jeunesse, aurait dit une couillonnade. Et les gens qui croyaient au mythe, on trouve que toujours le Bordeaux de ma jeunesse, ils étaient bien braves. Eh bien, pas du tout. Ces gens-là n'étaient pas plus bêtes que nous, ils l'étaient autrement.
Et, enfin, ceux qui disent « circuler, il n'y a rien à croire », vous ne les aimez pas beaucoup.
Je ne les aime pas beaucoup parce que... Non, pas parce qu'ils... Voilà, ils m'agacent un peu parce qu'ils ne se laissent jamais... non, pas convaincre. J'ai jamais convaincu personne, ni jamais surtout eu envie de convaincre quiconque. Mais ils ne se laissent pas, comment dirais-je, raconter un peu pourquoi des gens ont pu croire à quelque chose. Ils estiment dès le départ que croire à quelque chose, c'est prouver qu'on est un crétin. Pas du tout. Croire en quelque chose, on peut rester un crétin en croyant en quelque chose, on peut être tout aussi crétin en ne croyant à rien. Or, les gens se figurent toujours que c'est beaucoup mieux de ne croire à rien, ça libère, etc., etc. Pas du tout, parce que immanquablement, ils transposent le besoin que nous avons d'espérance, ils le transposent sur un autre idéal, un idéal à la hauteur des pâquerettes, en gros, n'est-ce pas ? On a cru à des tas de choses. Il fallait que je passe la liste des mythes auxquels on croit aujourd'hui.
À commencer par la nécessité de ne croire en rien.
Par exemple, qui est un des beaux mythes, ça, c'est un mythe redoublé. C'était de ne croire en rien parce qu'il paraît qu'on est mieux, on se porte mieux. Moi, je trouve pas. J'ai été tenté un moment de désespoir par l'athéisme, de désespoir métaphysique un peu. Et puis, je me suis aperçu que ça menait à rien et je vois pas pourquoi... Tant et si bien que j'ai gardé ce qu'on peut appeler une foi, mais une foi qui n'est pas assujettie à des dogmes. Bergson disait quelque part à propos du comique, il disait que le comique, c'est ce qu'on obtient quand on plaque du mécanique sur du vivant.
Oui, et vous riez vous-même de ceux qui plaquent la raison sur le mythe.
Voilà, exactement. Alors on plaque de la raison sur du mystère, alors on obtient un petit monstre logiquement conçu qui est un dogme.
Mais voyez, Lucien Jaffagnon, dans la démarche de Bergson, quand il parle du rire comme de la vie, qui se venge de cette façon qu'on a de plaquer de la mécanique sur elle. Il parle notamment du comique de répétition pour qualifier ça. Il identifie le vivant, en l'occurrence, à ce qui n'est pas contrarié par la mécanique qu'on veut plaquer dessus. Oui. Or, vous mettez le mythe à la même place. Ça veut dire quand même qu'il y a chez vous un privilège consenti au mythe.
Oui, un privilège.
Sur la raison.
Oui.
Vous prétendez les réconcilier.
Ça n'est pas uniquement un privilège, si vous voulez. C'est au moins récupéré comme aujourd'hui avec le féminisme et toute cette sorte de choses. C'est-à-dire qu'au moins, n'est-ce pas, qu'au moins que les femmes soient égales des hommes, bon Dieu, voyez-vous, c'est ça que ça veut dire au fond le féminisme. Et là, je suis tout à fait pour. Eh bien, qu'au moins on dise que, de ce point de vue-là, le besoin du mythique soit admis comme le besoin de rationalité. Voilà, on a besoin d'espérance, on a besoin de mythes, exactement qu'on a besoin de comprendre, on a besoin d'espérer comme on a besoin de comprendre. Et je ne vois pas pourquoi, interdire aux gens, fermer la voie de l'espérance, améliorer leur situation. Je trouve qu'au contraire, elle l'aggrave. C'est Paul Venn qui dit quelque part, qui compare admirablement d'ailleurs, la vérité, si vous voulez, les vérités, les strates de vérité à des chaînes de télé entre lesquelles on zappe. Voyez, quand vous dites la somme des angles d'un triangle est égale à deux droits, je ne me trompe pas, non, j'espère que je ne me trompe pas, je suis nul en maths. Mais bon, quand on dit ça, bon, on dit une vérité mathématique. Si je dis Louis XVI est mort du cancer du foie, je fais une erreur historique, parce qu'il est mort la tête coupée, assassiné au moment de la guerre civile de France. Bon, pauvre garçon, etc. Bon, il y a des couches de vérité, il y a des strates de vérité, il y a des styles de vérité, et il n'y a pas une vérité unique qui ne serait accessible que par une démarche de l'intellect qui serait unique. Qu'est-ce que c'est que aimer vraiment quelqu'un, la vérité d'un amour ? Est-ce que c'est la même vérité que la vérité historique, que la vérité des mathématiques ? Non, c'est autre chose. Il y a quelque chose qui nous dépasse, qui est autre, qui est un désir d'espérance. Évidemment, l'ennuyeux, c'est qu'on n'est pas fichu de définir l'objet de notre espérance en termes qu'aimeraient bien voir définis les amateurs d'absolu de la raison.
En même temps, Lucien Jaffagnon, Paul Venn, dont vous parlez, en 1983, et vous le citez, la question de savoir si les Grecs avaient cru à leur mythe. Oui, oui. Alors, tout simplement, quelle foi était la leur ?
Ah, je dirais, ayant beaucoup pratiqué les Grecs et les Romains, qui sont devenus un peu... J'ai toujours l'impression d'avoir été prendre un verre avec eux, comme je vous disais un jour. Je dirais que leur foi, ils en prenaient, ils en laissaient. Il faut tout de suite dire qu'il n'y avait pas de dogme. C'est-à-dire qu'il n'y avait personne, il n'y avait pas une autorité pour dire si quelqu'un prétend que l'EDA n'a pas pondu un œuf, etc., du fait d'avoir été, disons, opéré par Jupiter, que celui-là soit anathème. Non, ça, ça n'existe pas. Ça aurait bien fait rigoler les gens si on avait interdit tel bouquin parce qu'on y parlait des dieux d'une façon qui n'était pas... qui n'était pas convenable. Il n'y avait pas de dogmatique, il n'y avait pas de magistère. Et donc, bon, ben, chacun en prenait et en laissait. À ce point de vue-là, je vous réfère à Varron, qui vivait à peu près au temps de Cicéron, c'est à peu près un contemporain de Cicéron, qui avait trouvé trois niveaux de dieux, de croyance en Dieu. Si vous voulez, il y avait les dieux... la théologie qu'il appelait la théologie fabuleuse, c'est-à-dire celle qu'il trouvait dans Homère, Hésiode, etc., les dieux des poètes. Hein. Il y avait la théologie civile, celle qui appelle à chanter la Marseillaise le jour du 11 novembre, vous voyez, n'est-ce pas ? Alors on allait faire un sacrifice aux dieux pour telle fête locale, parce que ce dieu-là était le dieu de la cité. Et puis alors, vous aviez le dieu des philosophes, la théologie des philosophes, qui était quand les philosophes se mettaient à parler de Dieu. Et alors là, pardon, ça devenait infiniment moins clair. Sénèque disait lui-même qu'il était beaucoup plus facile de se faire entendre d'accorder deux horloges que deux philosophes. Hein. Et les horloges, c'est des horloges à eau à l'époque. Hein.
Et est-ce qu'il ne s'agit pas non plus de la foi dont vous parlez qui cherche au fond de la jarre de Pandore avec un calme désespoir, s'il ne resterait pas encore un tout petit rien d'espérance au fond.
La foi, c'est... Je me rappelle un jour, bavardant avec un très éminent, c'est le cas de le dire, et très vieil ami, le cardinal Poupart, nous parlions de la foi, et il m'avait dit, vous savez, Gerfagnon, la foi... Ne cherchez pas de complications. La foi, c'est l'espérance dans un amour. Et je n'oserais pas citer ce texte si je ne l'avais vu depuis écrit par lui dans un de ses bouquins. Et ce jour-là, je me rappelle encore, c'était dans l'enclave vaticane de la Piazza San Callisto. Je me rappelle encore que je lui avais dit « Mais alors, éminence, mais je l'ai la foi, alors ?» Et il m'avait répondu, bah, évidemment. Et il m'avait, à ce moment-là, mis avec énergie dans l'ascenseur et on s'était fait un signe. Et vous voyez, ce souvenir-là ne me quittera jamais.
C'est l'espérance dans un amour qui vous fait dire qu'on se prend à rêver d'un monde sans anathème où le savoir de l'espérance viendrait magnifier l'espérance du savoir, où en somme, le mythique et le rationnel, le cru et le su, comme vous dites, serait réconcilié au lieu d'être confronté de façon absurde par l'intelligence
absurde
humaine.
Et contentieuse, oui. Voyez-moi, s'il fallait que je définisse ma foi chrétienne, une supposition, ça n'est pas défendu. Je dirais, s'il faut absolument que je la définisse, ça serait à la fin de l'évangile de Matthieu, lorsque... Les disciples partent de Jérusalem complètement désespérés. Ils ont vu Jésus crucifié, c'est foutu. Bon, ils avaient cru à une immense espérance, etc. Et puis, ils sont là sur le chemin, parlant de toute cette tristesse, leur rancœur, leur tristesse. Et puis, il y a quelqu'un qui les suit. Et puis, ce quelqu'un les accroche au passage. Et puis... Il leur parle, et puis, à un moment donné, ils lui disent, Seigneur, autrement dit, Monsieur, Seigneur, reste avec nous parce que il se fait tard. Et ils vont dans un nouveau hôtel du coin ou un vague bistrot, et là, ils mangent ensemble et ils le reconnurent à la fraction du pain. C'est tout. Je préfère ça à des pages et des pages de la dogmatique qu'on trouve dans le Denzinger, Banvart, etc., etc. Voyez-vous, s'il fallait que je définisse ma foi, ou dans celle de Calvin, la foi de Calvin, etc.
Vous voyez, êtes protestant.
Ma foi, ça serait, voilà, étant protestant. ma foi, ça serait celle des pèlerins d'Emmaüs. Et je crois qu'elle est parfaitement compatible avec le fait que j'ai travaillé toute ma vie, j'allais y ajouter un adjectif bordelais, toute ma vie sur la façon de penser de tous les auteurs de l'Antiquité et du Moyen-Âge. J'aime bien.
Cette foi qui est la vôtre, est-ce que c'est celle qui vous fait dire que en dépit, Lucien Gerfagnon, en dépit des hautes capacités d'abstraction des philosophes, du raffinement critique des historiens, je vous lis, du libertinage métaphysique des poètes, les dieux sont toujours là.
Ils sont jamais loin. Je préfère dire d'ailleurs, finalement, qu'ils sont jamais loin plutôt que toujours là.
Vous avez écrit toujours là.
J'ai écrit toujours là.
Oui, et vous dites après, rien ne vient remettre en question ce fond diffus de piété qui se rappelle à vous de temps en temps dans les petits bonheurs, les grands malheurs et les cérémonies officielles.
Oui, c'est vrai, pour bien. Et là, vous voyez le coup des cérémonies officielles, parce que c'est Varron qui me revenait en esprit, vous voyez, ce qui prouve que j'ai fait un aimable, comment dit-on ça, dans le français d'aujourd'hui, mixing, n'est-ce pas ?
Dans Les dieux ne sont jamais loin, au début du chapitre intitulé « L'aurore des dieux », vous substituez votre propre mythologie, vos propres scènes primitives aux mythes dont vous parlez, à Gilgamesh, Adam et Ève, ou la théogonie d'Hésiode. Et bien là, vous remplacez ça par une nuit d'orage, 14 juillet 1925. Votre premier orage conscient, dites-vous. Et alors, vous êtes dans les bras de votre mère.
Je m'y retrouve encore. Là, vous voyez, je vois le noir. C'était à Poitiers. Si vous voyez, mon père était nommé à Poitiers, là. Les fils de fonctionnaires, ça va partout. Et là, je me revois encore ce tonnerre. Il faisait l'électricité, naturellement, s'était éteinte, bien sûr, pour que ça soit plus drôle pour un gamin de 5 ans. Et j'entends ce bruit effroyable. C'est la première fois que je voyais des éclairs. Et je ne savais pas encore dire « nous sommes foutus » ou quelque chose comme ça, puis je n'avais pas le droit de dire un gros mot. Mais c'était ça que je pensais, au fond. Et je m'étais réfugié sur les genoux de ma pauvre mère, bien planqué, de façon à ne pas voir ça.
Mais alors, vous décrivez la chose, vous dites, vous êtes, vous, dans les bras de votre mère sur ses genoux.
Oui.
Votre père fait le scientifique, qui vous explique que tout cela n'est pas si grave. Et vous avez deux grands-mères, dites-vous. L'une dévote et l'autre non.
Oui, il y en avait une qui était pratiquement athée. Mais malgré tout, quand il y avait de l'orage, elle avait tendance à se souvenir d'un très vague christianisme de sa vraiment toute prime jeunesse.
Vous parlez de son recueillement.
Elle devenait recueillie à ce moment-là. Oui, très recueillie. Quant à l'autre, elle se livrait, elle se promenait avec un cierge. Enfin, c'était très drôle. Il y a un mélange catholique-protestant chez nous dans la famille, un peu de tout. Mais si bien que, vous voyez, je les voyais quand même touchés par cette histoire de... Et moi, maintenant, je savais... Bon, j'avais toujours un peu la trouille, comme on dit élégamment, mais je savais, depuis que mon vieux papa qui était à l'époque mon jeune papa, m'avait expliqué que c'était tout simplement comme quand j'avais un court-circuit, j'avais mis mon doigt dans la prise de courant, qu'il y avait une petite flamme qui en était sortie, et j'avais été secoué. Bon, tu vois, ça c'est une beaucoup plus grosse flamme, il vaudrait mieux que tu ne sois pas, etc. Donc j'avais compris.
Et pourtant, vous étiez vraiment, dans cette scène primitive, vous êtes, vous, l'enfance de l'humanité, en l'occurrence, c'est-à-dire dans l'état de celui qui, voyant un éclair, pense que Dieu est fâché.
Oui.
Au moment mythologique de l'humain, votre père serait à ce moment-là le spinoziste, pour qui les croyances et la foi seraient l'effet d'une ignorance et d'une sanctification des phénomènes encore méconnus ou incompris.
Mais mon père avait les deux cultures, si vous voulez. C'était très, peut-être un peu juxtaposé chez lui, mais c'était sincère des deux côtés. Et il était sincèrement croyant, du fait de ma pauvre mère, qu'il l'avait en quelque sorte amené à être croyant. Et il était en même temps très rationnel, écrivant dans les revues mathématiques, écrivant des articles impénétrables, c'est un autre mot qui me vient à l'esprit.
Pardonnez-moi, mais si l'antagonisme entre le cru et le su, entre la théologie et la philosophie, ou bien la mythologie et la rationalité vous semble si artificiel, est-ce que ça ne vient pas tout simplement du fait que votre père était l'un et l'autre ?
Il était l'un et l'autre à la fois. Il avait su vivre. C'est possible d'ailleurs que son expérience m'ait en quelque sorte un peu hanté. Ils vivaient l'une et l'autre expérience. Effectivement, le plus drôle, c'est que c'est vous qui m'en faites prendre conscience à cet instant. C'est très curieux. Je n'avais jamais focalisé ça sur lui, vous voyez. Peut-être cette façon de toujours, quand les philosophes, là je mets des guillemets, mettons surtout l'historien de la philosophie, de vivre toujours dans 36 pensées à la fois. Effectivement, je n'ai pas pensé à ça. C'est possible qu'il y ait eu l'âme. De fait, de temps en temps, ça m'a peut-être posé des questions. Mais ces questions, j'étais trop jeune pour les resserrer dans une dialectique.
Hein. Alors, Lucien Jaffagnon, dans le récit de cet orage, vous dites que vous avez que cet orage vous élève à une dimension nouvelle de la vie, dans la mesure où elle vous fait prendre conscience de votre vulnérabilité.
Oui.
Vous parlez de la vision de votre finitude, confirmée, dites-vous, par votre première vision de l'océan dans les houles du golfe de Gascogne.
Oui, en 1932, la première fois que j'ai vu l'océan. Et je me disais qu'en face, il y avait l'Amérique. Il suffisait que je me jette à l'eau, j'allais en Amérique, ou plutôt je devais aller à quoi, 50 mètres un peu plus loin, ensuite de quoi c'en était fini. Bon, j'ai su définitivement que nous n'étions pas grand-chose sur Terre, qu'il n'y en avait pas pour longtemps, et qu'il était peut-être bon d'essayer de comprendre un peu. Mais je me suis su mortel très tôt, hein, très très tôt, je me suis su mortel à la mort de ma pauvre mère, j'avais moi-même 6 ans, donc j'ai su ce que c'était que mourir, et ensuite de quoi ils sont tous tombés comme des mouches dans ma famille, les grands-pères, les grands-mères, etc., tous à peu près dans le même moment, et donc j'ai su qu'un jour ou l'autre, là en l'occurrence ça a été plutôt l'autre, ça m'arriverait. Hein. Je me rappelle Cioran qui dit « Celui qui n'est pas mort jeune s'en repentira tôt ou tard ».
Vous citez aussi dans le même chapitre Ionesco qui dit, dans le Roi ouais, se meurt, ouais. Tout le monde est le premier à mourir.
Ouais, ouais.
Et vous commencez ce chapitre par le Requiem de Mozart.
Ouais, ouais.
Et vous dites ceci, vous dites « Je sais plus d'un athée fervent ». Sidéré malgré lui par les stances de terreur et d'espérance qui s'y trouvent.
Oui, oui.
Et vous terminez ironique en disant « c'est la musique sans doute ».
Oui, oui, c'est vrai que quand le grand orgue se déchaîne dans une église catholique et que les chants s'élèvent, ça, je pensais à quelqu'un de très précis, plus athée tu meurs, qui me dit quand même, quand vous prenez le lier ciré en pleine poire, quand même, hein, et le « ha 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 » me disait tout. Je ne le citerai pas, bien entendu.
Et dans ce chapitre, vous parlez de l'espérance de Socrate. Vous terminez sur l'espérance de Socrate, qui dites-vous, donc condamné par un tribunal populaire et qui, je vous lis...
Le crétin, oui.
Et oui, le tribunal de crétin, qui se disposait paisible, sans angoisse, à avaler le bouillon de 11 heures servi par la démocratie athénienne. Donc tous les messieurs Homais d'Athènes avaient condamné Socrate à mort.
Ils étaient tous réunis.
Et vous citez Socrate qui dit « J'ai bon espoir qu'il y ait quelque chose après la mort ».
Oui, le terme c'est « euelpis », une belle espérance, en grec « euelpis », une belle espérance.
Est-ce que Socrate à ce moment-là décrit un état qui serait le vôtre, tout simplement ?
Oui, c'est pourquoi je suis très socratique. C'est bizarre, mais Socrate c'est un peu, je le retrouve avec mon vieux maître Jean Orcibal, avec Vladimir Jankélévitch, il y a Socrate aussi. Et si j'en étais capable, quand j'évoque Socrate, j'écraserais une larme. Vous voyez, parce que je l'aime bien. C'était un bon maître. Je l'ai bien aimé. Et exactement comme ses disciples-là, tout autour, qui l'ont accompagné à ce dernier moment, et qui l'a quelque peu engueulé, surtout celui qui s'était mis à pleurer, ça va pas la tête. Enfin,
surtout celui qui pleure, si vous-même pleurez, vous allez vous faire engueuler par Socrate.
Je me fais engueuler, c'est pourquoi je me garde bien de pleurer, c'est pourquoi j'ai dit que si je pouvais écraser une larme, je l'écraserais, mais je ne l'écraserais pas. Voilà. Oui, il m'est toujours présent, parce que comme il a ouvert à peu près tout le monde à la philosophie, eh ben, il m'y a ouvert aussi. Mais il m'y a ouvert au travers de Plotin, vous voyez, je reviens toujours à ça, au travers de tous mes philosophes bien-aimés. Et à chaque instant, ben c'est le moment de commencer à s'y mettre. Et pourtant, maintenant, je suis largement dans la 8e dizaine et il faut que je commence à m'y mettre.